Avant de commencer, j'ai quelque chose à faire, à dire. Il y a quelques jours, dans une conversation avec un frère et une sœur, on s'est un petit peu accrochés et je voudrais, avant de commencer, parce que je pense que si je ne le fais pas, je n'arriverai pas à vous apporter la parole. Je voudrais leur demander pardon si j'ai pu paraître indifférent à leurs problèmes. Ce n'était pas le cas. Et si j'ai élevé la voix. Alors, Laurent, Inès, je vous demande pardon et de me pardonner. Ce n'était pas le cas. Je peux vous assurer que j'ai passé une mauvaise nuit, mais je comprenais votre problème. Alors, je vous demande pardon. Alors aujourd'hui, je voudrais vous apporter des paroles réalistes, des paroles réconfortantes, mais aussi des paroles motivantes. Le confinement. Une période compliquée pour nous, et je vous dirais que si elle l'est pour nous, imaginez ce qu'elle peut être pour les non-chrétiens. Ces non-chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont que les hommes vers qui se tourner et espérer. Espérer des vaccins, espérer des solutions. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de choses tournaient quand même autour de l'argent. Bon. D'imaginer... Oui, pour ceux qui n'ont pas le soutien de Dieu dans cette période de ténèbres, comment ça doit être pour eux? Je dirais que l'homme, sans la présence à ses côtés de l'Éternel, le Dieu créateur, est l'homme des ténèbres, l'homme de Satan, sa proie, sa chose. Alors le confinement, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est une situation qui limite les déplacements. Ça s'est un peu amélioré, mais on veut toujours plus. Ça limite les contacts, les échanges. Moi, je vois quand je vais dans mon village faire mes courses, je vais à la boulangerie, c'est un petit commerce, c'est pas très grand. On peut être éventuellement deux, mais de toute façon, il n'y a qu'une vendeuse. Donc bon, moi je sais que j'attends, quand il y a une personne dans le magasin, j'attends à l'extérieur. Il y a la queue. Je me sers, je demande ce que je veux, on me sert. Et bonjour, ça va bien, je paye, au revoir, bon courage. Ça se limite à ça. Et à une autre époque, je dirais... Il y avait un peu plus de contact. On parlait de choses et d'autres. Là, on se dépêche. Donc, on ne s'attarde pas. Et quand l'on croise des personnes à l'extérieur que l'on connaît, on leur fait un petit signe comme ça. Tu vas bien? Oui. Des fois, on parle un petit peu à distance et ça se limite à ça. Alors, c'est vrai que je me dis que ça peut être très compliqué pour certaines personnes. On est confiné. Alors quelles sont, je ne connais pas vos occupations, mais les miennes, c'est le jardinage, avec un peu de télé en fin de journée. C'est le jardinage et je me suis rendu compte en fait que dans mon jardin, il n'est pas très grand, hein, mais je l'avais laissé un petit peu de côté depuis 2-3 ans. Je faisais le strict minimum, je taillais la haie, je faisais quelques plantes, je mettais quelques plantes. J'en arrachais d'autres, voilà. Donc, 2-3 ans sans vraiment s'occuper d'un jardin, je peux vous dire que vous avez des surprises. Et ce que j'ai fait, je m'y suis mis. Alors, on commence par quoi? On enlève les cailloux. Parce que les cailloux, malgré leur poids, ils ne descendent pas dans le sol, hein, ils remontent. Hein. Ça, c'est un des problèmes que les jardiniers rencontrent régulièrement. Et puis, on désherbe dans le but de replanter. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais laissé une mauvaise herbe envahir mon jardin. Cette mauvaise herbe, c'est le chien-dent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le chien-dent. C'est une herbe qui peut paraître... Elle est sympa à voir. Ça fait des petits bouquets, c'est sympa. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré sur ce bouquet d'herbe verte. Donc c'est venu, mais au bout, pas de racines. Contrairement à d'autres plantes. Pas de racines. Alors, j'ai creusé et j'ai trouvé. Alors c'est pas très profond, hein, ça reste. J'ai creusé et j'ai trouvé une racine. Et j'ai tiré tout doucement dessus. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc voilà ce que ça donne. On en voit un petit morceau. Bon, là, elle est un peu fanée. Donc, il y avait cette petite touffe verte. Et puis, hop, j'ai trouvé le bout de la racine. J'ai tiré. Et voilà ce que ça a donné. Bon, ça a été facile à l'extraire parce que le sol était un peu humide. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que cette plante, si on en laisse un petit morceau, quelques centimètres dans le sol, eh bien, elle repousse de plus belle. Et puis, elle fait des ramifications aussi. Et au bout, une particularité aussi, c'est une plante très coriace, très solide, très forte, parce qu'au bout, il y a une pointe. Et j'ai vu une de ces pointes traverser de part en part, c'est des racines filantes, et traverser de part en part les tubercules d'un dahlia. C'est un peu comme une grosse pomme de terre, si vous voulez, mais ça l'avait traversée de part en part et ça avait continué son chemin. Alors, bon, il y a du boulot. C'est une plante sournoise. On la voit ici, puis elle est en fait plus loin. On en arrache une partie et puis il y a une partie qui reste en terre et ça repousse. Alors, moi, depuis le... Ce travail que je faisais dans le jardin, ça me... Bon, j'étais en extérieur, mais ça me permettait aussi d'être en contact avec Dieu, parce que je levais les yeux au ciel, je regardais les nuages, je disais, oh merci Seigneur, aujourd'hui il y a un beau temps, oh, il y a un beau soleil, ah oh, tiens, il y a de la pluie, oh, les arbres perdent leurs feuilles, et de rendre gloire à Dieu. Mais je me suis rendu compte quand même que depuis le confinement, je me suis laissé, en fait, envahir. Envahir par, comment dire ? Eh bien, mes lectures de la Bible étaient plus courtes. Parfois, je disais peut-être deux fois dans la journée, mais c'était plus court. Mes prières, moins intenses, même si en étant dans le jardin, je rendrais grâce à Dieu peut-être plus régulièrement, mais il n'y avait pas cette intensité que j'avais avant le confinement. Alors je sentais que j'avais un problème. J'avoue, je n'osais pas me l'avouer. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, je ne suis pas là pour poser cette question, bien sûr. Mais en fait, je me relâchais. Ma relation avec Dieu était diluée. Je ne sais pas comment vous faire comprendre. Je vais prendre une image. Alors, ne pensez pas que je suis un fort consommateur, hein, mais je vais vous parler du Ricard. Moi, une bouteille d'un demi-litre, j'aime bien en boire de temps en temps, une bouteille de 50 centilitres, ça peut me faire 2 ans, hein, pour vous donner un peu l'idée de la quantité que je bois. En général, quand j'invite du monde, ça disparaît beaucoup plus rapidement. Mais bon. Alors, le Ricard. Moi, j'ai l'habitude de le boire sans eau. Pur, comme ça. je ne l'apprécie que comme ça, en fait. Parce qu'il y a une odeur, il y a un goût, il y a une intensité, en fait, que je ne retrouve pas quand on met de l'eau dedans. Et bien, je pense qu'à un moment, ma relation avec Dieu, ça a été un peu ça. Il y avait le goût, il y avait l'odeur, mais il n'y avait pas l'intensité. Et je me suis dit que mon relâchement s'était propagé, un peu comme ce chien dent. On en voit une partie, et puis en fait, c'est plus enraciné. Et ça s'est fait d'une façon sournoise, dissimulée en fait. Je sentais bien que ça n'allait pas, mais j'arrivais pas à... Merci au chien dent, hein, de m'avoir éclairé, en quelque sorte, grâce à Dieu. Or, cette plante, le chien dent, on la voit à nos pieds, et en fait, elle est déjà propagée. Or, le chien dent, je me suis rendu compte dans mon jardin, parce qu'il y a des murets, eh bien, les seules choses qu'il arrête, c'est les murets en ciment, en béton, ou vraiment les pierres très très dures, genre les gros silex. Si c'est du moellon, de la pierre tendre, ça peut passer à travers. Donc, je dirais que mon esprit, trop occupé par ce qui frappe le monde aujourd'hui, a fait sûrement que je me suis relâché d'une certaine manière. Alors vous me direz pourquoi je me suis relâché. Ben, la Covid, cette pandémie, ça apporte pas mal de questions. Ne me dites pas que vous n'en êtes pas posé. De nombreuses questions personnelles et aussi de notre entourage. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais les personnes qui savent que je suis chrétien, ben elles me posent des questions. Il y a des interrogations. Alors j'en étais quelques-unes, bah, tout simplement, qu'en penses-tu de cette pandémie? Et puis il y en a d'autres, c'est, mais que fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Une autre, pourquoi permet-il cela? Une quatrième, est-ce qu'il est à l'origine de ça? Et certains m'ont donné des réponses en disant, si ton Dieu est contre, pourquoi des chrétiens meurent? Ah. Des personnes m'ont dit que j'ai même des pasteurs qui ont dit que des églises avaient été touchées car elles s'étaient éloignées de Dieu, qu'elles n'avaient pas fait la volonté de Dieu. Alors que répondre à ça? Je me suis dit que ces questions, ces affirmations, pouvaient amener le doute, mettre le doute dans les chrétiens, un peu comme ce chien dent, cette mauvaise herbe qui envahit, chemine sournoisement. Elle est là, mais c'est déjà plus loin. Alors moi, je dis que nous devons être comme du béton ou des pierres dures, qui ne peuvent pas être pénétrées, traversées. Cette mauvaise herbe, elle doit nous contourner. Elle ne doit pas nous toucher. Alors depuis cette réflexion, depuis que je me suis rendu compte de ce que je faisais, je me suis dit... il faut que j'ai un mot d'ordre. On me tournait vers le Seigneur en plus, évidemment, mais ce mot d'ordre, c'est ne pas me relâcher, ne pas me diluer dans ma relation avec Dieu. C'est mon mot d'ordre aujourd'hui. Alors moi, je vais vous affirmer une chose. La Covid-19, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, mais l'homme dans ses laboratoires. Et l'homme... qui veut toujours inventer des choses, être, je dirais, au-dessus de Dieu. eh bien, on a perdu volontairement ou involontairement le contrôle de ce virus. Je me suis dit, si à chaque fois que l'on fait une bêtise, Dieu intervenait pour l'empêcher, l'arrêter avant qu'elle ne se réalise, eh bien, nous ne saurions jamais que c'est une bêtise. Et nous ne pourrions même pas constater que Dieu intervient. Je dirais même que sa présence pourrait même passer totalement inaperçue. Alors, je vais vous parler d'une autre maladie qui, en son temps, a contaminé toute la terre. Alors, les jeunes ne la connaissent peut-être pas, n'en ont peut-être jamais entendu parler, parce qu'on en entend parler de moins en moins, mais c'est le sida. Alors, quelle comparaison, vous allez me dire. Le sida, c'est une maladie qui détruit l'être humain. Ça s'est propagé par des pratiques sexuelles, entre autres, par des pratiques sexuelles, je dirais, hors normes, par des mixités, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est juste une constatation. Par des relations sexuelles avec des personnes de passage, surtout avec les jeunes, à une époque où il y avait cette liberté sexuelle et on avait des compagnons ou des compagnes d'un soir, et le lendemain, on ne savait même plus qui c'était, on ne connaissait parfois même pas son prénom. Mais cette maladie, elle a été propagée en partie de cette manière. Après, elle a été propagée d'une manière médicale, parce qu'on ne savait pas très bien ce que c'était, et en soignant des gens, on le propageait à d'autres. Il y a aussi la drogue. La drogue, ça a touché beaucoup les personnes qui se droguaient. Parce que la drogue, contrairement à ce que certains peuvent penser, ça donne un manque de lucidité. Ça fait rêver, mais des mauvais rêves. Hein. Et c'est aussi, ça entraîne un affaiblissement de l'organisme. Alors je dirais que dans les relations sexuelles, même les personnes qui à un moment de cette contamination étaient contaminées, elles étaient encore désirables pour certains. Donc, il n'y avait pas de barrière. Et ce qui était injuste, c'est que dans un couple, si l'un d'entre eux était fidèle et l'autre non, et qu'il avait des relations avec une personne qui était contaminée, il contaminait celui ou celle qui était fidèle. Et je me suis dit, croyez-vous que Dieu soit l'instigateur d'une telle maladie, au point de condamner à mort un juste? Si, comme on a entendu, c'est une punition parce que les personnes se droguent, sont infidèles, pourquoi celles qui étaient justes ont été touchées aussi? Alors moi, je me suis dit que, et j'en ai la certitude, beaucoup de maladies sont l'œuvre de Satan. Être éloigné de Dieu rend vulnérable. Être éloigné de Dieu, c'est être une proie facile pour Satan. Alors c'est vrai que on a des exemples dans la Bible, dans la parole, de chrétiens qui peuvent être punis par Dieu pour leur égarement, par leur égarement. Et j'ai trouvé un passage, c'est dans Exode 32. Alors je vais revenir un petit peu, je vais pas lire Exode 32, mais les Hébreux sont sortis d'Égypte. Moïse les a aidés, les a guidés. Et là, Moïse est parti à la rencontre de Dieu qui va lui transmettre les tables de la loi. Pendant ce temps, le peuple se rebelle. Les Hébreux se rebellent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se créent un faux Dieu. Ils se créent le veau d'or. Or Dieu, quand il voit ça, après tout ce qu'il a fait pour eux, on comprend qu'ils sont en colère. Hein. Quand vous les parents, quand un de vos enfants vous désobéit, vous désobéit et vous désobéit, à un moment... Dieu, c'est pas. Il est vraiment en colère, il veut réduire son peuple en cendres. Mais Moïse intercède pour Israël. Et là, il y a un choix qui est donné aux Hébreux. Rejoindre Moïse à la porte du camp et être épargné, ou ne pas le rejoindre et être puni. C'est vrai que Dieu, de cette façon, nous donne le choix. Leur donne le choix. Il leur dit, avant de les punir, revenez à moi. Alors je vous dirais que, rassurez-vous aussi, parce que lorsque l'Éternel envoie des fléaux, en général c'est contre un adversaire. Un adversaire de son peuple. Un adversaire de ses enfants. Il donne en même temps les moyens et l'assurance que son peuple ne soit pas impacté. Je vais vous parler des plaies d'Égypte. C'est dans Exode 8, versets 19 et 20. C'est le passage des mouches venimeuses. Dans le verset 19, il est dit « J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. » Là, il parle à Pharaon. Verset 20, « La maison de Pharaon, celle des serviteurs, et tout le pays d'Égypte est touché. » Et on nous précise, dans le pays de Gozan, où habite mon peuple, il n'y aura pas de mouches. Dieu ne condamne pas les justes, ceux qui sont avec lui. Dans Exode 9, les troupeaux sont touchés par une grande mortalité. Dans le verset 4, il nous est dit, dans Exode 9, verset 4, « Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. » Là aussi, Dieu il n'envoie pas des fléaux contre son peuple, contre ses enfants. Donc je ne crois pas que Dieu ait pu envoyer la Covid-19 sur nous. Ce n'est pas son œuvre. On va même aller plus loin dans Exode 12, verset 7. On sait que le sang d'un agneau, la veille du départ du peuple hébreu, dans le désert, pour échapper à Pharaon, le sang d'un agneau ou d'un chevreau est badigeonné sur les deux poteaux et le linteau de la porte des maisons des Hébreux. Pourquoi cela ? On le voit dans le verset 12. Dieu dit, cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Dans le verset 13, il nous est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Dieu ne condamne pas ses enfants. Dieu n'envoie pas des fléaux contre ses enfants. La Covid-19 n'est pas voulue par Dieu, mais elle est utilisée par lui. Dans Jean 11, le verset 4, Jean 11, verset 4, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors lorsque Jésus dit « Cette maladie n'est pas pour la mort qu'est-ce que c'est ? C'est la cessation définitive de la vie. C'est la définition qui est donnée. Moi, je dis que cette définition appartient à ceux qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ, qui ne l'ont pas accepté comme sauveur. La mort, c'est Satan, appartient à Satan, pas à Dieu. Alors, ce que je vais dire, si ce n'est pas le cas, je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, faites un retour sur vous-même. Les chrétiens savent que la mort n'est pas une fin en soi. On ne doit pas en avoir peur. Nous savons que par Jésus-Christ, on a la vie éternelle, un prolongement infini de la vie après notre passage sur cette terre, dans ce monde. Dieu veut notre guérison à tous. Et pour cela, il faut que nous nous tournions vers Jésus-Christ, son Fils. Que nous tournions vers lui pour toute sa gloire, pour sa plus grande gloire. Je vais vous lire ce qui est dit dans Marc 16, les versets 4 à 6. Marc 16, versets 4 à 6. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, c'est Jésus a été mis dans le tombeau, a été crucifié, a été mis dans le tombeau. Et quelques jours après, des femmes viennent pour préparer l'embaumement, la cérémonie dans le sépulcre. Donc là, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Alors je me mets à leur place, qu'éprouvent les femmes de l'épouvante. Dans la situation que l'on vit actuellement, on peut éprouver aussi cela. Mais je vous dis non, non. L'épouvante, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment de panique, c'est une terreur soudaine. Cette terreur, elle est parfois même inexpliquée. On ne comprend pas, c'est en nous et ça jaillit comme ça. C'est une vive inquiétude. La terreur, c'est un sentiment d'effroi, de peur, une peur intense. C'est un moment de panique. C'est un affolement de nature irraisonnée. C'est incontrôlé, et le problème, c'est que c'est souvent collectif. C'est un peu comme ce chien dent. On en voit une partie là, et ça a contaminé à l'autre extrémité. Je me dis que c'est ce que l'on pourrait éprouver devant, face à la Covid-19. Mais je vous dis, pas de panique, pas d'épouvante. Dans 2 Corinthiens 4, les versets 14 et 15, 2 Corinthiens 4, versets 14 et 15, il nous est dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, il nous fera paraître avec vous en sa présence. verset 15, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Comment je peux traduire ça ? Afin que la manifestation de la bonté divine, de la bonté de Dieu, son aide surnaturelle, permette à l'homme d'obtenir le salut. Que ce bienfait, ce pardon, son pardon, nous soit accordé et se multiplie et fasse abonder, augmenter à la gloire, pour la gloire de Dieu, les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est les prières de remerciement, de reconnaissance à Dieu, d'un plus grand nombre. Dieu veut qu'il y ait plus de personnes qui le glorifient. Je sais que la COVID-19 n'est pas voulue par Dieu, mais utilisée par Dieu. Tout comme la maladie de Lazare, les guérisons d'infirmes, de malades, de muets, de sourds ou d'aveugles. C'est utilisé pour nous révéler sa présence, sa puissance. Dans Jean 9, les versets 1 à 3, Jean 9, versets 1 à 3, il nous est dit, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les maladies, ce n'est pas Dieu qui les veut. C'est Satan qui nous les envoie parce que nous sommes éloignés de Dieu. Je vous dirais que Dieu n'est pas le docteur Knock, je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce docteur qui arrive dans un village et où, faute de patients, il inventait des maladies pour se créer une clientèle. Il faisait tout pour les inquiéter. Il y a réussi. C'est ce qui se passe en ce moment. Je dirais que Satan, c'est le docteur Knock. Dans Matthieu 9, les versets 12 et 13, Jésus dit, Matthieu 9, 12 et 13, Jésus dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors je voudrais conclure de la manière suivante. Si le dimanche, nous venons pour louer Dieu, nous venons pour l'adorer, nous venons pour le remercier, les autres jours de la semaine, et à partir d'aujourd'hui, nous allons lui apporter les malades, les pécheurs. Ou si nous ne le pouvons pas, nous allons au moins donner à ces malades la bonne adresse, celle de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Merci Marc pour cette belle racine que tu nous as ramenée.